bienvenue au balado Le No-Brainer. Je suis Anaïs Beaupré pour vous présenter aujourd'hui Audrey Drapeau, donc ostéopathe et aussi chercheure, donc une candidate au PhD, donc qui vient un petit peu là, discuter avec nous aujourd'hui de son cheminement, puis aussi de ses réalisations là, dans le cadre de ses études, en fait, sa recherche. Donc, bonjour Audrey.
Bonjour.
Donc, en fait, on voudrait commencer un peu par que tu nous exposes un peu ton cheminement, d'où tu es partie, puis où tu es rendue aujourd'hui.
Alors, je peux peut-être vous raconter l'histoire de ce qui m'a amenée vers la recherche. Mm-hmm. Donc, initialement, j'ai une formation, un baccalauréat en kinésiologie, et j'ai fait une spécialité en recherche lorsque j'étais en kinésiologie. Et puis, en fait, j'étais dans l'axe en biomécanique. J'ai fait de l'analyse posturale, puis le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était sur les asymétries de longueur de jambe, puis comment ça venait influencer les oscillations du centre de pression. Donc, on utilisait des plateformes de force, puis on utilisait des marqueurs sur les différentes articulations. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé... La recherche, c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Mais après le baccalauréat, j'ai voulu partir en voyage pour changer un petit peu d'air après avoir travaillé pas très longtemps dans le domaine, un an quand même, au Centre de réadaptation Lucie Bruneau avec l'équipe de Viomax. Ça m'a permis de mettre en application ce que j'ai appris en kinésiologie, donc d'adapter l'activité physique à des gens qui ont des restrictions fonctionnelles, mécaniques, puis d'avoir un impact sur leur santé, pas seulement sur une performance sportive. J'ai eu envie de voyager, puis je suis partie vivre en Chine. Donc, j'ai vécu 4 ans à Taïwan, puis 1 an à Hong Kong. Et puis, je pensais même me partir en affaires là-bas. Et donc, après ces années, j'avais de l'expérience en enseignement, mais je n'avais pas de bac en enseignement. Puis après ça, bien, j'avais un bac en kinésiologie, mais je n'avais pas vraiment une expérience qui était facilement Taïwan pour savoir. Puis Audrey Drapeau, c'est-tu un bon prof? Ou faisais-tu une bonne job?
Fait que je trouvais pense que pas qu'ils vont plus... jusque-là pour rappeler les références.
Non, c'est ça.
Donc... Je me suis cherchée un petit peu à cette époque-là, puis comme j'avais beaucoup aimé la recherche, je m'enlignais en fait pour faire la maîtrise Exercise Science ou Exercice thérapeutique de l'Université Sherbrooke, justement. Puis l'autre, c'était avec Concordia. Puis j'ai recontacté mon ancien prof en biomécanique avec qui j'avais fait mon projet d'analyse. Et puis, finalement, c'est un hasard que je m'étais mis à chercher sur Internet quoi d'autre que je pourrais faire. Puis, il y avait une séance d'information au CEO sur le programme en ostéopathie. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais descendre à Montréal, je vais aller écouter ça, voir si ça me correspondrait, tu sais. Parce que j'ai quand même un intérêt pour la santé, puis je voulais, après avoir tenté peut-être de m'en aller... en physiothérapie, puis me rendre compte que j'aimais pas ça, puis ergothérapie, puis finalement que ça me convenait pas non plus, de choisir si l'ostéopathie pourrait convenir à ce que je voulais comme vision de la santé. Puis j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, c'est exactement où je suis rendue dans ma vie. Je vois la santé comme étant un tout, puis je trouvais ça important de pouvoir aborder l'humain dans toute son entièreté, dans son corps physique, mais aussi de prendre en considération son corps émotionnel, son corps psychique, son environnement. Puis autant que je voulais devenir médecin, autant je ne voudrais pas ce métier-là aujourd'hui dans le contexte actuel, malheureusement, parce que moi, en ostéopathie, j'ai la chance d'avoir une heure avec mon patient, puis de le connaître, dans son environnement, dans sa famille, puis... Moi, je fais de l'ostéopathie familiale, j'ai envie de dire, là. Fait que j'ai le privilège de pouvoir suivre les gens dans toutes leurs étapes de vie, d'étudiants à adultes, en couple, à finalement en train d'essayer de concevoir. Après ça, ils ont une famille, puis là, je suis les enfants, puis je suis les autres membres de la famille.
De famille, là, oui.
Fait que je me sens vraiment privilégiée dans ce travail-là. Puis quand j'ai fait la séance d'information, en plus... Ma fibre de voyageur, tu sais, il y avait des missions humanitaires avec le CEO. Donc là, je me disais, ça, c'est trop parfait, parce que je vais pouvoir m'en aller n'importe où dans le monde avec mes deux mains puis continuer à travailler. Donc voilà, j'ai fait le programme temps plein au CEO plutôt que le temps partiel, même si j'avais un bac en kin. Parce que, bon, je revenais de la Chine, de un, j'avais pas une clientèle en kinésiologie avec qui j'aurais pu appliquer les techniques, puis je trouvais que c'était pas pertinent si je faisais un programme à temps partiel, puis de pas être en immersion, puis de pas mettre en pratique de manière régulière. Et donc, le programme à temps plein, pour moi, ça me correspondait vraiment. Puis, au début, je me disais, ah, tu sais, c'est un autre programme d'école. Puis, il disait tout le temps, vous allez voir, en ostéopathie, ça vous change. Puis, j'étais comme, ben oui, 5 ans en Chine, ça m'a changé. Mais là, finalement, c'est bien que ça vient te chercher dans plein de côtés de ta vie pour te faire évoluer en tant que personne, pour que tu deviennes un thérapeute vraiment accompli. Et puis, bon, bien, à la fin de mon cursus en ostéopathie, bien, il fallait faire un mémoire. Et puis, moi, je suis retournée à mes amours, là, en biomécanique. Et donc, j'ai eu des collaborations avec une professeure de l'ETS et puis mon directeur de projet de recherche en ostéo. Il y avait des contacts pour que je puisse emprunter une plateforme de force. Donc, j'ai fait un mémoire sur la technique de recentrage des sphères, parce qu'on dit dans la formation que cette technique-là permet d'enlever des forces d'impact qui peuvent avoir été imprimées dans les tissus suite à un accident. Puis, c'est pas que j'ai un... j'ai un côté très sceptique. Puis, autant que je l'ai senti en clinique, autant je voulais être capable de mesurer est-ce que vraiment c'est ça qu'on fait, tu sais, de faire une technique pour pouvoir enlever des forces d'impact puis que ça ait une répercussion dans la posture. Et donc, ça a été l'objet de mon mémoire. J'ai été bien encadrée. Puis, ça m'a permis de retourner un petit peu dans le bain de la recherche parce que j'avais Nicolas Agamaster de l'ETS qui était mon mentor, en fait, en même temps que j'avais quelqu'un en ostéopathie pour ce projet-là. Et donc, voilà. Puis après, j'ai parti ma clinique. Puis j'ai travaillé, mais je travaille encore comme ostéopathe clinicienne. Et avec tout ce qui se passe sur la reconnaissance de l'ostéopathie, est arrivée ma fibre... De guerrière, je pense. Là.
Patriotique.
Oui, qui a décidé que je voulais absolument contribuer à donner une crédibilité scientifique à notre profession parce que je crois profondément que c'est une profession de la santé. Et donc, je me suis dit, si j'adore enseigner, parce que j'enseigne aussi au Collège d'études ostéopathiques, et puis s'il arrive un autre professionnel puis que ça rentre dans une université puis que je ne peux plus enseigner, je serais vraiment malheureuse. Donc, je me suis dit, je vais aller me chercher une maîtrise, puis au moins, j'aurai les qualifications pour pouvoir continuer ou j'aurai, en tout cas, quelque chose de plus dans mon bagage pour que mon CV soit intéressant pour qu'une université décide de me prendre si le programme s'enseigne à ce niveau-là. Donc, voilà. Puis là, pour trouver mon projet, j'ai contacté vraiment plusieurs personnes. Je suis retournée en biomécanique, puis finalement, on m'avait... un petit peu fait savoir que si je voulais faire de la recherche qui inclurait l'ostéopathie, il fallait d'abord que je sois reconnue dans mon milieu. Puis là, on m'avait dit, mais là, tu es étudiante à la maîtrise, fait que moi, les étudiants à la maîtrise, ils doivent être disponibles 7 jours sur 7. Ils viennent au laboratoire, ils travaillent dans les heures. Puis si toi, tu as un autre projet, il va falloir que tu prennes le laboratoire quand il est non utilisé, fait que de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Oh là, là, j'étais comme, OK. Puis la personne, ils m'ont dit, mais tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas publier en ostéopathie alors que tu n'as même pas de maîtrise, puis tu as... Fait que fais-toi un nom, puis après ça... Alors, ils ont comme pris un petit peu mon projet.
Ils ont pété la bulle.
Ils m'ont dit que je pelletais pas mal de nuages, puis que j'étais pas réaliste dans mes...
Je pense que ça arrive toujours dans un processus ou l'autre, là, quand tu commences les études supérieures, ça arrive une fois de temps en temps.
Souvent.
Souvent.
Il y a plus de murs que de...
On se fait péter nos rêves assez vite.
Ouais. Mais je pense que ça nous fait grandir, finalement, au bout du compte.
Moi, t'as juste à me dire que je serai pas capable, puis je vais te dire, attends un peu, je vais te le montrer.
Je vais te montrer ça.
Je vais te le montrer. Et donc, c'est ça. Puis j'ai contacté d'autres champs d'intérêt que j'avais. Puis finalement, celui qui a été un coup de cœur, c'est au niveau de la physiologie vasculaire cérébrale. Donc, mon directeur, qui était un ancien collègue, on a fait notre baccalauréat ensemble en kinésiologie et maintenant professeur-chercheur à l'Université Laval. Puis, il y a un intérêt particulier avec la physiologie vasculaire cérébrale. Puis, il y avait des projets qui se faisaient sur les commotions cérébrales. Puis, moi, j'avais quand même fait de la formation continue en ostéo sur le traitement des commotions cérébrales, puis la gestion du stress, de l'anxiété. Donc, tout ce qui est système nerveux central, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, l'aspect vasculaire, je trouve qu'il est peu exploré en ostéopathie. Il n'y a pas tant de formation qui nous permet de mieux connaître notre impact sur le réseau vasculaire. Beaucoup plus, en tout cas, peut-être pas fondé, en tout cas scientifiquement, on en discutera plus tard, mais il y a plus de formation qui touche le système nerveux, je trouve. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise. Et puis, pour rendre ça facile, en ayant l'enseignement à Montréal, ma clinique à Montréal, ma vie à Montréal, puis d'aller à Québec pour faire la maîtrise, puis voyager à chaque semaine, faire les cours, les crédits. C'est un beau défi. Et puis, entêtée comme je suis, je voulais faire absolument mon projet de maîtrise en ostéopathie. Et donc là, c'est sûr que quand l'ostéopathie n'est pas intégrée dans le milieu universitaire, c'est pas une discipline qui est financée d'emblée. Donc là, moi, j'arrivais avec des idées, pas d'argent. Puis mon directeur n'avait pas non plus d'argent pour moi. Fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup de démarches pour essayer d'aller chercher des fonds. Puis même pas des fonds pour me payer moi en tant qu'étudiante, mais je voulais juste de l'argent pour payer les outils de mesure.
Pour financer ce que tu voulais faire.
Le projet, c'est ça. Donc, ultimement, ça va m'avoir pris 2 ans pour cumuler un petit 6 000 piastres. Ce qui fait que... Bien, là, j'avais le choix. Tu sais, c'est arrivé, mettons, pendant ma maîtrise, j'ai travaillé sur d'autres projets parce qu'on avance quand même pour apprendre les outils de mesure, apprendre c'est quoi la physiologie vasculaire, puis l'appliquer à différentes populations parce que nous, au laboratoire, on travaille sur des gens qui ont la maladie vasculaire périphérique. J'ai dit tantôt, ceux qui ont eu des commotions cérébrales, mais là, nous, c'était dans le cas du syndrome post-commotionnel. Après ça, on a travaillé avec des athlètes. Et donc, j'ai appris en travaillant sur différents projets. Et puis, après ça, on a eu une opportunité de faire un projet de recherche invasif pour pouvoir, en fait, on infusait de la norépinéphrine tritiée, donc un petit peu radioactive, un marqueur, pour être capable de différencier la norépinéphrine qui est sécrétée par le système nerveux sympathique, en fait. On voulait être capable de discriminer... lorsqu'on impose un stress, quelle était l'activité du système nerveux sympathique systémique versus cérébral, puis quel était l'impact du système nerveux sympathique sur le réseau artériel cérébral. Parce que chez les agneaux, on se rend compte que ça aurait peut-être un effet opposé de ce qu'on s'attend. Puis ça aurait un effet opposé du reste du réseau artériel à présent. Puis on a fait ce premier projet pilote-là. Et donc là, ça m'a vraiment intéressée. Puis je me disais, bon, j'ai pas d'argent pour faire mon projet en ostéo encore. Moi, je veux avancer. Je l'avais tout écrit. J'avais soumis au comité d'éthique. J'ai été approuvée au comité d'éthique. Mais ça avançait pas assez rapidement. Puis là, on a fait ce projet-là super intense en collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique. On a eu des collègues qui sont venus au Québec, qui nous ont aidés avec ce projet-là. Puis là, finalement, l'équipe de biochimistes qui devait analyser la norépinéphrine avait de la difficulté à trouver la manière d'aller reconnaître la radioactivité. Donc là, ça aboutissait pas pour que je puisse avoir mes données. Puis là, moi, je me disais, non, je fais ma maîtrise en 2 ans. Là, je vais pas prolonger ça. Et donc, j'ai écrit puis fini ma maîtrise en 3 mois. En mois de janvier, j'ai changé de projet, un autre sur lequel je travaillais en parallèle, puis j'ai complété ma maîtrise en 2 ans. Et donc là, une fois ma maîtrise complétée, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je n'avais pas préparé à l'avance l'idée que je continuerais au doctorat, parce que c'est quand même un long processus, les études, post-graduée, puis c'est beaucoup d'obstacles, surtout quand tu es un professionnel clinicien qui est aux études en même temps, donc à gérer tout ça. Finalement, je me suis dit, ah, je les ai déjà fait les compromis pour arranger mon horaire puis être capable de tout gérer ça. Fait que je vais continuer au doctorat. Je me disais tout le temps, quand l'ordre professionnel va arriver, plus je suis outillée, mieux ça va être. Fait que là, je me disais que ça aurait lieu avant ou pendant ma maîtrise. Finalement, j'ai fini la maîtrise. Puis là, j'ai continué au doctorat. Puis là, je suis à la troisième année du doctorat et j'attends toujours l'ordre professionnel.
On est une coupe à attendre.
Et donc, oui. En tout cas, on verra peut-être, je vais avoir le temps de finir mon doc. Puis l'ordre va arriver, mais c'est ça. Donc, étant donné que là, j'avais réussi à avoir un certain montant d'argent pour pouvoir financer l'utilisation des outils de mesure, j'ai été capable de débuter un projet de recherche en ostéopathie où là, je mesurais... encore une fois, là, les effets d'une technique, tu sais, je suis allée très de base, puis les effets d'une technique qui me faisait un peu douter aussi, donc qui est la technique des sinus veineux. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on draine vraiment les sinus? Donc là, initialement, je voulais mesurer par échographie Doppler dans la veine jugulaire le sang qui sortait, puis mesurer par Doppler transcrânien le sang qui rentrait au niveau du cerveau, puis faire une différence artério-veineuse comme ça, puis finalement... c'est pas suffisamment précis pour être capable de faire cette différence-là. Fait que mon projet, il s'est comme un peu transformé au bout du compte. Puis j'ai travaillé beaucoup avec d'autres ostéopathes pour essayer de... Tu sais, quand t'es au début, là, en ostéo, puis que tu fais de la recherche, c'est comme... ça va être quoi la meilleure première brique pour monter le reste?
Pour pas que ça soit chambranlant.
Mm-hmm. Ouais.
La base a de l'allure.
C'est toujours difficile, cette première brique.
Oui, c'est ça.
Et donc, tu sais, j'avais eu plusieurs bonnes suggestions, puis je pensais m'en aller dans cette voie-là aussi. J'ai eu beaucoup d'échanges vraiment constructifs avec Nathalie Camiran, que j'adore. Puis là, je voulais aller tester si on fait du travail vasculaire, artériel, est-ce que vraiment on voit un changement sur la circulation. Puis finalement, tu sais, en me rendant compte que les outils de mesure que j'avais me permettait pas d'avoir cette mesure-là. Fait que là, c'est un autre deuil, tu sais, dans le processus. Donc, finalement, je suis restée avec la technique des sinus veineux. Puis, je me suis dit, bon, on commence par ça, puis on verra. T'sais, si on draine plus, peut-être que ça va, de façon indirecte, amener plus d'apport au niveau crânien. Puis moi, je mesure dans l'artère cérébrale moyenne la vélocité du sang. Donc, fait que là, j'avais commencé à recruter. J'ai eu des patients. Là, j'étais rendue à une dizaine de patients en pandémie.
Ah, petite, cette fameuse.
Ouais, cette fameuse obligée.
Pandémie. Donc là, c'est ça. J'ai eu une bonne année et demie de pause avec la pandémie. Puis là, ben, on a été capable de reprendre. Puis là, ben, mon budget était vide. Fait que là, je me suis rendue à 14 participants. Et donc, ça aussi, c'est un autre petit deuil parce que là, t'es comme... ah, tu sais, je vois qu'il y a des choses qui changent parce que là, j'ai fait mon analyse de données. Puis, il y a beaucoup de variabilité inter-individus. Fait qu'avec cette première étude, on va l'appeler pilote parce que j'ai seulement 14 individus. Puis, j'ai utilisé une mesure parce qu'il y en a plusieurs, des déterminants qui viennent contrôler le débit sanguin cérébral. Puis moi, j'avais choisi la voie réactivité vasculaire cérébrale au dioxyde de carbone parce que je me disais, bon, ben tu sais, on pense qu'on change un petit peu le milieu chimique quand on fait des manœuvres en ostéopathie. Peut-être que ça se mesure au niveau chimique avec la réactivité au CO2. C'était un peu la voie que j'avais explorée pour finalement me rendre compte que, ben dans une partie de la population, ça améliore, puis dans une partie de la population, ça la diminue, puis dans une partie de la population, rien du tout. Puis vraiment comme...
Trois groupes bien déterminés.
Ben, tu sais, moyen déterminé, parce que j'ai pas un assez gros N pour que ça soit aussi distinct, mais ces résultats préliminaires, j'ai été capable de faire une première présentation par affiche au centre de recherche où je suis. Je suis à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, donc qui est affilié avec l'Université Laval.
Puis sur cette affiche-là, justement, tu présentes ces résultats-là?
Oui. OK. Sur cette affiche, je présente les résultats. Puis, j'ai toujours beaucoup d'espoir d'avoir des discussions sur l'ostéopathie.
Toujours fun, oui. C'est en présentiel, parce que maintenant, les présentations oui, par affiche, maintenant, sont à cause de la pandémie. Il y en a beaucoup qui sont virtuelles. Puis
ben, moi, ça
c'est
a été virtuel.
Ah oui, c'est ouais. Ça. C'est un peu plus plate.
Est-ce que tu en as eu des discussions?
Non.
Non? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont posé des questions?
Oui, mais les gens me posent des questions sur c'est quoi l'ostéopathie. T'sais, on retourne à la base de... Déjà, je suis dans un milieu très niché en physiologie vasculaire cérébrale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. On est un laboratoire au Québec, puis après ça... Il y a Colombie-Britannique, puis là, maintenant, en Alberta. Les autres travaillent sur les souris. Alors, c'est plus fondamental. On est déjà très niché. C'est sûr que là, je suis dans un institut qui fait du cardiovasculaire, fait qu'il y a quand même un intérêt général sur ce que je fais. Puis, c'est correct. C'est juste que ça me ramène sur la base de c'est quoi l'ostéopathie, puis pourquoi on a besoin de faire de la recherche.
Tu amènes un bon point, justement, parce que reste que quand on est en ostéopathie, on sait c'est quoi, on le comprend. Notre clientèle qui reçoit nos soins le comprenne aussi parce qu'ils se sentent bien face à ça. Mais on se bute très souvent avec d'autres professionnels de « mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'ostéopathie? » Puis reste qu'on a encore, même comme communauté, je pense, parfois de la difficulté à bien l'exposer, à bien le vulgariser pour que la personne qui soit devant nous, elle dise « ah ben oui, c'est évident. » Ton directeur, finalement, il est ouvert à ça, l'ostéopathie. Comment qu'il comprend, lui? Parce qu'il est
pas
dans un domaine... Oui, c'est ça, il est dans un domaine niché, comme tu le dis, donc...
Non, l'ostéopathie, il ne comprend pas grand-chose là-dedans. Là. Lui, il me fait bien confiance par rapport à ça. Mais tout ce qui est en lien avec la méthodologie, la collecte de données, avec ce qui est en lien avec la physiologie vasculaire, je suis très, très bien coachée. Puis, ça faisait partie de mon plus grand stress quand j'ai passé mon examen de doc parce que j'avais un cardiologue comme évaluateur. J'avais une physiologiste qui travaille en fondamental avec les souris, mais qui fait de la physiologie vasculaire cérébrale, plus axé sur la rigidité artérielle, mais quand même. Puis, j'avais un médecin sportif, puis mon directeur. Alors là, je me disais, OK, là, comment je fais pour vulgariser ce que je fais pour que ça ait une crédibilité scientifique? Parce que c'est vraiment ça, je pense, ma mission, c'est de donner une crédibilité scientifique à l'ostéo pour qu'on puisse finalement se faire intégrer dans le système de santé comme une profession. Mm-hmm. Et puis... à mon grand étonnement, ça a été tellement bien reçu. Je me suis mis tellement de pression pour être capable de trouver la manière. Mais je suis quelqu'un qui est très structuré, très méthodique. Et puis, c'est sûr que j'ai eu des questions du type, c'est quoi la différence entre ce que toi tu fais en ostéopathie puis quelqu'un qui va aborder la même région, par exemple les cervicales. Toi, tu vas les traiter, les cervicales. Le physiothérapeute va les traiter, les cervicales. Ou un chiro va traiter les cervicales. Puis pourquoi est-ce que tu tiens autant à dire que c'est de l'ostéopathie? Puis pourquoi tu ne dis pas juste thérapie, tu sais, impact de la thérapie manuelle sur la physiologie vasculaire cérébrale? Puis moi, je crois que la différence, elle tient dans le dialogue avec les tissus. Peu importe c'est quoi la manœuvre, que tu fasses une compression, un étirement, que tu fasses seulement mobiliser, si tu prends le temps d'écouter quand tu fais cette manœuvre, c'est ce qui nous distingue les ostéopathes d'une manœuvre en physiothérapie ou en chiropratie. On a l'air de rien faire en ostéo parce qu'on met nos mains, puis à un moment donné, on ne bouge plus. Mais on ne bouge plus parce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, puis on s'ajuste à chaque fois à ce que la personne a besoin, puis... Je pense que c'est la beauté de notre travail, tu sais. Et donc, j'ai essayé d'expliquer ça à mes évaluateurs en parlant d'un élastique. Si j'étire un élastique puis que l'élastique veut revenir à sa position initiale, bien, des fois, il fait juste comme un mouvement linéaire, mais des fois, on dirait qu'il va faire un petit mouvement un peu de lemniscate. Et donc, c'est ce qui nous distingue en ostéo, c'est qu'on va faire, par exemple, une mise en tension puis qu'on va accompagner les tissus dans la direction qu'ils ont besoin, puis après ça, à un moment donné, ça arrête, ça gonfle, ça dégonfle, puis ça relâche. Et donc, tout ce processus-là entre dans l'aspect dialogue avec les tissus, puis je tenais à ce que ça soit dit pendant mon examen, puis finalement, ça a été très bien reçu. T'sais, tant que les autres professionnels ne le savent pas, ben ils ne peuvent pas l'accepter ou être ouverts à cette optique-là. Parce que pour avoir discuté des fois avec des médecins qui me disaient, ben moi, je palpe un ventre puis je cherche des masses. Mais moi, je palpe un ventre puis...
On cherche autre chose.
On cherche vraiment autre chose. Puis je suis capable de discriminer, je suis sur quel organe, je suis sur quelle texture, je suis sur quelle couche, quelle profondeur. Est-ce que ça vit bien, est-ce que ça vit pas bien, est-ce que ça bouge bien, c'est tout selon ses axes. Puis c'est tout ça la spécificité de l'ostéopathie. Puis je me suis fait poser pendant cet examen de doctorat... OK, mais pourquoi choisir cette technique-là? ou pourquoi choisir de faire la physiologie vasculaire cérébrale. Puis ma réponse, ça a été, ben je suis devant une forêt et il n'y a pas de chemin. Alors, j'ai le choix. Je prends une chainsaw, je prends une machette, je prends une hache. Bon, j'ai
choisi... Crée ton propre chemin.
J'ai choisi X.
Ouais, tout est à faire encore.
Tout est à faire. Donc, voilà.
C'est une des raisons, moi aussi, que... Ben moi, c'est ma raison de pourquoi je suis allée en ostéopathie. J'ai toujours voulu faire de la recherche. J'ai gravité dans la recherche, puis dans tout ce qui était biologie au départ. Puis, je trouvais que tout était à faire, en fait, en ostéo. Puis, c'est un peu ça qui m'a poussée à m'inscrire en ostéo, à faire mes études en ostéo. Puis, éventuellement, ben là, je suis actuellement aussi clinicienne, mais je continue dans cette forêt, comme tu le dis bien, là, à creuser des chemins, à creuser ce qu'on peut. Puis, tout est à faire. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment très motivant, en ouais. fait. C'est une motivation que je trouve qui peut aussi peut-être réveiller certains... Chez certains d'autres cliniciens, peut-être, cette fibre de la recherche, puis éventuellement, peut-être qu'on sera plus que les quelques-uns qu'on sait qui sont au Québec et qui sont dans des études graduées.
Mais je pense que la réalité de faire de la recherche, elle est plus que méconnue, de un. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me disais, c'était vraiment difficile de faire de la recherche quand j'ai voulu faire mon mémoire au CEO. Sauf que... En rentrant à l'Université Laval, qui est une université reconnue, je me suis bien rendu compte que c'est pas bien ben plus facile là, parce que j'avais pas de budget, l'ostéopathie n'était pas intégrée dans un programme à l'université. Après ça, ben, faire des demandes de bourse, si moi j'arrive, ça fait 20 ans que je ne suis plus à l'école classique, là, académique, mettons. Puis là, j'avais pas de CV de recherche. Là, pour avoir... du financement, il fallait que je me bâtisse un CV de recherche. Mais pour faire un CV de recherche, il faut que tu travailles dans des projets, il faut que tu publies, il faut que tu fasses des présentations par affiche, il faut que tu t'investisses beaucoup. Alors que j'enseignais déjà, j'avais déjà ma clinique. Fait que ça prend quand même pas mal de guts, pas pour me vanter, mais parce que je le vois, tu sais, tous mes collègues sont hyper productifs, puis t'es constamment dans le syndrome de l'imposteur de « ben, je suis-tu vraiment à la bonne place? Je vais-tu vraiment arriver à changer quelque chose, moi, avec mon petit projet N14 présentement? » Mais bon, ça me passionne, puis je continue. Puis ce matin, j'ai eu une géniale de nouvelles, donc là... J'ai enfin un budget pour faire de la recherche.
Wow.
Là,
j'ai bravo!
Bravo, ouais. Félicitations!
Fait que le centre de recherche de l'IUCPQ nous ont accordé un beau budget de 30 000 pour pouvoir faire de la recherche en ostéo. Fait que emballée, là.
Prochain N, 40, 50.
Ouais, ben là, tu sais, j'ai pas de ZRSC, mais au moins je vais être capable d'avoir un budget qui va me permettre d'avoir un N intéressant. C'est ça la difficulté, là. C'est est-ce qu'on fait de la recherche avec... les effets d'une seule technique, les effets d'un traitement, les effets d'un soin sur plusieurs traitements. Après ça, est-ce que l'outil de mesure permet de mesurer
ce que
tu penses que tu veux mesurer? Parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux mesurer et ce que l'outil de mesure mesure. Et puis, puis après ça, ben dans le contexte financier, voilà.
Puis les connaissances que tu as acquises, en fait, au cours des dernières années en neurophysiologie, à quel point ça peut être lié à ce qu'on fait en ostéopathie? Écoute, comment tu l'intègres? Comment ces connaissances-là...
Demande à mes étudiants là, que j'ai préparé à leur examen final cette année. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Un, c'est pas juste la précision de la physiologie vasculaire cérébrale, mais c'est aussi la physiologie en général. T'sais, dans le fond, on fait une manœuvre en ostéo, pas juste pour débloquer une structure puis redonner une mobilité. L'objectif, c'est de susciter la capacité d'auto-guérison du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en vrai? Ça veut dire qu'il faut que l'intervention que je fasse avec mes mains modifie le milieu interne de la personne. Il faut qu'il y ait un impact sur la physiologie. Donc, c'est ça, moi, que je trouve extrêmement important, puis que le bagage que j'ai qui se consolide encore plus, parce que j'en ai fait beaucoup de la physiologie en kinésiologie, plus axée physiologie de l'exercice, puis après ça, bien, physiologie vasculaire, parce que j'ai travaillé avec des athlètes avec la maladie vasculaire périphérique, puis là, on a les insuffisants rénaux aussi. Alors, ça veut dire que je transpose ces connaissances-là sur ma pratique en ostéopathie, à savoir est-ce que ce que je vais faire est bon ou pas pour le réseau artériel? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Comment est-ce que mon intervention va venir modifier le milieu interne, tu sais, aider la physiologie de la personne? C'est comme ça que j'utilise autant mes connaissances puis dans ma pratique de tous les jours comme clinicienne, mais aussi comment je l'enseigne. Mm-hmm. Donc, voilà.
Fait que le transfert de connaissances, ben, doit être vraiment... en tout cas, teinté, en fait, là, de toute cette expérience-là. Donc, j'imagine que si on faisait venir tes étudiants, ben, ils verraient quelqu'un de très passionné là, qui développe, en fait, là, ce transfert-là. C'est vraiment génial. Pour ce qui est de tout ce qui est, justement, la physiologie vasculaire cérébrale, l'ostéo, est-ce que tu as, en fait, une hypothèse de mécanisme? Ou on est trop loin encore de ça pour être capable de...
Selon ce que tu as observé jusqu'à présent, là, quand bien même c'est sur N14...
Honnêtement, j'ai pas fini d'analyser mes données parce que j'ai fait des mesures. Nous, on a un protocole de recherche qu'on applique à plusieurs populations. Donc, on fait des valeurs de repos. Et puis après ça, on teste les différents déterminants du débit sanguin cérébral. Puis ceux qu'on utilise principalement dans notre laboratoire, c'est l'autorégulation cérébrale dynamique. Donc, l'autorégulation cérébrale, c'est pour le préciser aux gens qui ne connaissent pas ça, c'est l'impact, dans le fond, la réponse des vaisseaux sanguins dans leur capacité à moduler leur tonicité, donc soit en vasodilatant ou en vasoconstrictant,
en fonction du débit.
En réponse à la pression artérielle.
Okay.
Donc, c'est vraiment ça le stimulus, c'est la pression artérielle. Donc, si la pression artérielle, elle est plus élevée ou moins élevée, elle va faire moduler, il y a des récepteurs qui vont faire moduler la tonicité des vaisseaux sanguins. Donc, ça, c'est un mécanisme en soi qui contrôle le débit sanguin, puis nous, on le teste. Et puis, on utilise, comme j'ai dit tantôt, la réactivité vasculaire cérébrale au dioxyde de carbone. Donc là, on fait respirer des mélanges de gaz qui sont plus riches ou moins riches en CO2. Pour être capable de voir encore là comment les vaisseaux sanguins répondent à ce stimuli-là, parce qu'il y a d'autres récepteurs qui viennent capter le milieu interne chimique. Et puis, ben là, je vous ai parlé aussi du projet sur l'activité du système nerveux sympathique. Et donc là, ça, c'est un autre déterminant du débit sanguin cérébral. On ne fait pas des mesures invasives avec infusion d'agents radioactifs là, à tous nos participants, mais mon protocole, j'ai autorégulation cérébrale dynamique, j'ai réactivité vasculaire au CO2, puis après ça, j'ai les mesures de repos. Et donc, puis là, j'ajoute la compliance vasculaire, puis après ça, ben j'aurai, si je veux aussi, parce que j'ai les informations pour la variabilité du rythme cardiaque, puis les baroréflexes. J'ai pas tout analysé. J'ai juste analysé la réactivité au CO2 présentement parce que je manque de temps. Fait que je fais ce que je peux avec les heures que j'ai.
On a tout le même nombre d'heures par semaine, hein? On peut pas...
Voilà, exactement. Donc, la seule chose que je peux dire, comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer, tu sais, il y a des études là, qui sont sorties, j'ai écrit une lettre à l'éditeur parce que c'est venu me chercher personnellement, puis je me disais, non, mais on peut pas laisser passer des informations comme ça publiées au cas où des cliniciens iraient lire ça puis prendraient ça pour du cash.
Bien, justement, là, en parlant de cet article-là puis de ta lettre que tu as faite à l'éditeur par la suite, là, qu'est-ce que ça disait, cet article-là, spécifiquement, qui a fait en sorte que ça te fasse réagir?
Bien, en fait, c'est une équipe aux États-Unis qui ont fait cette étude-là. Puis, ils ont fait des mesures avec le Doppler transcrânien de la vélocité du sang dans l'artère cérébrale. Puis, ils ont présenté des résultats indiquant que la manœuvre de décompression C0C avait une influence sur le débit sanguin cérébral. Donc là, eux, c'était ça leur conclusion. En utilisant le end-diastolic velocity, le peak end-diastolic velocity, c'est tout. Puis là, il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas contrôlé pour les autres déterminants, dans le fond, du débit sanguin cérébral. Fait qu'il y a, puis certainement pas le CO2, qui est le déterminant le plus important. Fait que si tu ne contrôles pas pour le CO2, comment est-ce que tu peux être certaine que c'est l'influence de la technique ostéopathique qui vient changer le débit sanguin de 1? Ça, c'est une problématique majeure. De 2, bien, le end-diastolique, on n'est pas dans une perfusion. Ce n'est pas la variable la plus déterminante qui nous indique qu'il y a vraiment un changement au niveau de la circulation du sang dans le cerveau. Alors, je trouvais qu'il sautait à des conclusions
trop hâtives
en ayant un protocole qui n'était pas suffisamment rigoureux, puis aucune ou presque référence en physiologie vasculaire cérébrale. Donc là, ça, c'était aussi problématique. Fait que tu utilises des outils de mesure parce qu'ils sont accessibles dans ton laboratoire, tu es bien intentionné, puis tu fais ton étude, mais tu n'as pas le bagage pour l'interpréter adéquatement, puis là, tu publies là-dessus. Fait que ça, c'est venu me chercher. Fait qu'au début, j'ai écrit une lettre à l'éditeur qui était peut-être pas mal trop longue, 1200 mots. Confondante, oui. Puis finalement, j'avais droit à juste 400 mots, fait qu'il a fallu que je synthétise puis que je ramène ça. Puis finalement, mon directeur m'a amené à adoucir ça, puis on a changé complètement d'angle en y allant plutôt éducatif, en donnant les bonnes références pour que les gens puissent aller chercher la base de c'est quoi la physiologie vasculaire cérébrale, puis quelles sont les connaissances, puis quels sont les paramètres qui doivent être étudiés, contrôlés pour être capable de faire des conclusions adéquates. Fait que, tu sais, je remercie cette équipe-là, mais en même temps, moi, c'était problématique parce que ma crainte, c'est ça, c'est que j'en pousse des étudiants à faire de la recherche, à aller sur PubMed, à aller prendre des articles, mais ils n'ont pas toute la capacité de pouvoir
bien critiquer
ce qu'ils lisent. Et donc là, après ça, ils vont dire, oui, en ostéopathie, on change le débit sanguin cérébral, puis là, pas tout à fait. Tu sais, je veux dire,
ils vont tirer avec des conclusions qui sont peut-être un peu en dehors.
Voilà. Puis moi-même, bien intentionnée, j'aimerais bien ça dire avec affirmation que j'ai un impact sur la vélocité du sang, qui n'est pas le débit sanguin, hein, c'est juste un surrogate, là, je ne sais pas le mot en français, mais ça fait en sorte qu'il faut que tu nuances beaucoup tes conclusions. Donc, voilà.
On voudrait tous avoir des résultats positifs sur c'est tout clair. Ce qu'on fait en ostéo, ben même dans n'importe quelle sphère, je pense que c'est ça que tu souhaites, là, quand
c'est
tu
ça.
Fais le projet.
Ben, le plus grand défi, c'est de trouver la manière de mesurer ce qu'on fait. Ça sera toujours ça, tu sais. Après ça,
c'est la difficulté aussi en ostéo, hein?
C'est ça. Puis là, tu sais, c'est la difficulté qu'on a, puis c'est ce qui vient me chercher puis qui me motive autant à faire de la recherche. Tu sais, là, présentement, on avait le document de l'Office des professions qui disait, bon, ben tu sais, c'est plus reconnu en musculo-squelettique, moins reconnu en crânien puis en viscéral. Donc, ces champs de pratique-là devraient être mis de côté un instant. T'sais, c'est peut-être plus facile d'aller chercher de l'argent pour faire de la recherche, pour faire du musculo-squelettique, parce qu'il y en a déjà eu du musculo-squelettique par avant. Puis après ça, c'est super difficile d'aller chercher de l'argent pour avoir un petit projet pour faire du crânien ou pour faire du viscéral. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été étudié que ça fonctionne pas. Puis, tu sais, moi, j'ai fait toutes les démarches pour être capable d'avoir finalement 6 000 $ en 2 ans pour avoir un N14. Fait que là, moi, je vais essayer de publier quand même, mais je vais publier puis je vais me faire dire « Ah, mais il n'y a pas… c'est pas un R, c'est un randomized control trial. » Oui, je le sais bien, mais donnez-moi-en de l'argent puis je vais faire un plus gros projet, tu sais. Puis là, on sera capable de dire que finalement, on a des effets significatifs. Fait qu'on est dans une espèce de loop de… On n'est pas reconnu, on n'a pas de données probantes, mais on n'a pas d'argent pour faire des données probantes. Fait que puis là, on commence avec des petites choses. Fait qu'il faut être entêté.
Selon ta perspective, là, ça serait quoi les enjeux ou les difficultés que tu vois, là, pour faire un projet ostéo, mais aussi avoir un côté un peu plus cadré, là, à l'université? Tu sais, là, tu as essayé de jumeler les deux, mais selon ta perspective, tu sais, en parlant du document de l'encadrement, par exemple,
ouais,
qui disait, bon, le crânien, le viscéral, c'est pas vrai, on en a des données, là.
Ouais.
Tu les vois où, les difficultés? Tu les vois où, les enjeux?
Bien, je vais parler de mes enjeux, moi, personnels. Tu sais, le premier, c'était de trouver un directeur qui serait intéressé puis qui aurait l'ouverture de permettre à un professionnel de continuer sa pratique en même temps qu'il fait de la recherche. De un, ça, je pense que c'est le plus gros enjeu, parce que pour avoir approché différents directeurs, il fallait que j'abandonne mon travail de clinicienne ou d'enseignante pour être capable de faire de la recherche, ce que je n'étais pas prête à faire. Là, moi, j'ai un directeur merveilleux, super flexible, puis tu sais, très, très présent. Toutes les 5 minutes, si j'y écris, il va me répondre. Fait que j'ai un encadrement quasiment, tu sais, très, très soutenu, disons. Ça, c'est le premier. Le deuxième, bien, ça vient du financement. Parce que pour être capable de faire un projet de recherche, il faut d'abord avoir de l'argent pour les outils de mesure, à moins qu'on ait, tu sais, un très bon projet qui utilise des choses pas coûteuses, là, tu sais, moi. Mais moi, je suis atypique, hein, là. Fait que...
Je pense qu'en ostéo, on en a beaucoup. On des gens qui ont des profils atypiques, et c'est correct. Ça fait la belle diversité,
je pense. Oui, ben, puis notre richesse, je pense, là. Puis, tu sais, la recherche est en train, finalement, de s'ouvrir à cette diversité-là. Tu sais, je ne sais pas si vous avez fait des demandes FRQS cette année, mais les fonds de recherche en santé du Québec, sous les recommandations de leur comité étudiant, ont finalement, tu sais, procédé à des modifications dans les critères de sélection pour pouvoir donner des bourses, ce qui est merveilleux, parce que là, on peut justement faire valoir notre parcours atypique, hein, plutôt que seulement celui académique qui est basé sur le nombre de publications puis le nombre de bourses qu'on reçoit.
Ouais, la performance, la performance, les notes, du nombre.
Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, moi, je...
On voit qu'on s'améliore.
C'est ça, exact. Fait que ça, c'est ça. Donc, dans le fond, le financement, fait que le financement pour avoir de l'argent pour faire de la recherche, puis le troisième, ben c'est... Ça reste quand même ça, là. C'est la motivation à la personne à passer par-dessus des obstacles, parce que le chemin en recherche, quel qu'il soit, n'est jamais un chemin droit. Il faut accepter de s'adapter, il faut accepter de changer son projet s'il faut. Il faut faire des deuils. Donc, puis après ça, tu sais, je souhaite aux gens qui veulent se lancer en recherche de s'entourer de gens motivés, tu sais, puis d'aller chercher, s'appuyer sur ces personnes-là, parce que des moments, comme je disais tantôt, où on se sent imposteur, pas trop à sa place, où on connaît pas... On a tout le temps l'impression qu'on n'en connaît jamais assez, là. Donc, on a besoin de ça. Autant des gens qui sont en avant qui nous tirent, puis autant des gens qui sont en arrière qui nous permettent de dire « Ah, ben j'en ai fait du chemin, finalement. » Tu sais, fait que... ouais, ça.
Dis-moi, tu sais, à la lumière de tout le parcours, le chemin que tu as parcouru, là... et considérant où on est rendu là, avec l'ostéopathie au Québec, là, du moins présentement, là, qu'est-ce que tu désirerais pour l'avenir, pour notre communauté, par rapport soit à tes travaux ou soit pour autre chose?
Ah, c'est vraiment une grosse question philosophique.
C'est très philosophique, déjà. Hein?
Mais j'adore la question parce que, tu sais, j'en parle à tout le monde de la recherche, là, parce que j'en suis passionnée, mais autant de l'ostéopathie, ouais. Mais je suis aussi confrontée. T'es confrontée avec des collègues, des amis proches à moi, puis qui me disent « Ah, oh, mais là, franchement, ça sert à rien que tu fasses de la recherche pour rien qu'une technique. » Puis je suis comme... Je ravale. Parce que je me dis... Tu sais, je l'ai fait tout le processus de me dire « Mais par où que je commence? » T'sais?
Mais c'est quoi la perspective de ce questionnement-là? Dans le fond, ce que je comprends là, de ce discours-là, c'est que ça serait plus valable qu'on fasse une intervention complexe avec plusieurs techniques ostéopathiques que juste prendre une technique puis voir si on a un effet quelconque sur une variable X.
Écoute, j'ai même pas fini cette réflexion-là. J'ai reçu la, comme je vous ai dit, la bonne nouvelle que j'avais finalement plus d'argent pour faire une étude 2 en ostéo avec un N plus grand, puis je me questionne... Hein, est-ce que je revire tout à l'envers? Puis finalement, tu sais, c'est parce que mon protocole, si je fais juste mon protocole pour prendre les mesures, c'est 5 heures. 5 heures pour faire une technique en ostéo. Fait que je fais un baseline, tu sais, on met l'instrumentation, après ça, il y a un temps de repos, après ça, on fait une manœuvre de squat répété pour être capable de tester, tu sais, de stresser les cerveaux, pour changer la pression artérielle, pour mesurer l'autorégulation cérébrale. Après ça, on fait un test où on respire le mélange de gaz, puis on mesure la réactivité vasculaire. Puis après ça, je faisais ma technique ostéo. Puis là, ça prend quand même un certain temps. Après ça, je refais un baseline tout de suite après. J'ai fait un baseline juste avant, un baseline juste après, pour être capable de m'assurer que mon baseline il est vraiment juste baseline. Puis après ça, je refais le protocole. Fait que c'est 5 heures. Mais là, 5 heures, puis ma technique, elle dure... 7 minutes. Mais là, si je veux faire un traitement complet, c'est super. C'est vrai que ça serait bien plus dans la philosophie de l'ostéopathie, mais réalistiquement, moi, il faut que je sois capable d'avoir quelqu'un qui va
pendant
rester...
Pendant 24 heures.
Là, quasiment 6 heures, parce que là, j'ajoute une heure. Fait qu'au lieu de 5 heures, j'ai une heure de plus. Fait que je suis à 6 heures, mais là, j'ai pas fait d'évaluation. Fait que là, je suis à 7 heures, parce qu'il va falloir que je l'évalue pour être sûre de trouver les lésions pour faire un traitement qui est adapté. Fait que c'est pas possible. Fait que ça, c'est un plus grand deuil encore de dire, bon, mais...
On doit faire un choix.
Faut faire un choix réaliste, réalisable, dans un délai qui est faisable. Tu travailles
dans des limites, là, limites de soit l'outillage, le temps, l'argent.
Les
là,
participants aussi.
Ben, les participants, il faut qu'ils soient disponibles. Ben, puis il faut que le laboratoire soit disponible, puis il faut que mon équipement soit disponible. Puis tu sais, mon premier défi, oui, j'ai ramassé, mettons, je dis des montants, là, mais mettons 6 000 $ mon premier projet. Mais sur le 6 000, j'en ai perdu 2 100 $ parce qu'il a fallu que j'achète un casque qui rentre dans les oreilles puis qui s'appuie sur le nez pour que je puisse attacher les sondes pour mesurer la vélocité du sang. Parce que le casque qui est comme ça, je ne peux pas mettre mes mains sur le crâne si je veux faire une technique ostéopathique. Fait que j'ai coupé mon budget parce qu'il a fallu que je m'équipe pour le faire. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut être réalisable. Je le sais pas c'est quoi la meilleure optique. Je pense qu'il faut tout le monde y aller dans ses intérêts parce que le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais parce que sinon, tu te rendras pas à la fin. Tu vas abandonner. Tu vas te dire, c'est même trop difficile.
Mais je pense que l'intérêt, c'est aussi de pousser les gens à peut-être développer un intérêt pour la recherche, d'en faire. Plus on va être beaucoup à en faire, certains vont faire un choix d'une technique, certains vont faire le choix d'un traitement complet. Puis c'est le volume qui va être intéressant. Quand on aura un volume, on pourra comparer certaines études qui ont été faites sur une technique, certaines études qui ont été faites sur un traitement.
Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu sais, la forêt est encore vierge presque vierge.
Ouais.
Donc, le chemin il est à faire. Donc, quand bien même on choisit de faire une technique pour maintenant, dans 5 ans, ce sera probablement autre chose ou possiblement autre chose.
Mais la plus grande difficulté qu'on a, c'est qu'il y a une personne qui est passée, peut-être, ou qui va passer. Mais s'il n'y a pas personne d'autre qui passe en arrière, le chemin, il va disparaître. Hein? Tu sais, la répétabilité, je ne sais pas c'est quoi.
Répétabilité.
Ça existe-tu, ça, en français?
Oui, ça existe.
Donc, c'est extrêmement important. C'est pas ennuyeux de refaire la technique, de refaire le protocole. C'est ça, la recherche, c'est de reproduire, la reproductibilité, en tout cas. Ouais.
Ben, reproduire, répéter, fiabiliser avec le temps.
Exact.
Et reproduire, c'est ça.
Fait que oui, ça prend des gens qui défrichent puis qui font des chemins dans la forêt, mais ça prend du monde en arrière qui vont avoir le
goût
de le refaire puis de l'améliorer. Puis de
chemin.
Voilà.
Ben oui, faire un sentier éventuellement, là.
Donc, merci à vous de faire connaître la recherche parce qu'après ça, si justement on peut susciter l'intérêt puis qu'on est plus dans notre gang, tant mieux.
Oui, puis tu sais, comme on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes, ben tu sais, c'est certain que le but premier de cette aventure-là, c'est vraiment de faire la passation de la connaissance ou du transfert de connaissances comme on le peut, puis tu sais, de susciter l'intérêt, puis tu sais, on est de plus en plus là, à aller en recherche, là, ou même à s'intéresser à ça. Je pense qu'on le voit, là, il y a un petit peu plus d'engouement là, auprès de la communauté. Puis aussi, peut-être de faire mieux comprendre comment ça fonctionne, les difficultés qu'on a au travers de ce processus-là, parce qu'on en a tous.
Puis il y en a qui ne comprennent pas non plus ces difficultés-là, puis ces limites. Puis quand on est assis dans notre salon, on dit « Voyons, les chercheurs, pourquoi ils ne sortent pas tout de suite tel et tel résultat? Pourquoi on n'a pas prouvé que l'ostéopathie, ça marche? Pourquoi? » Ben, on ne voit pas en haut de la montagne, hein, tout ce qu'il y a à faire.
Les difficultés, tu sais. Puis Audrey, tu les as bien mentionnées. Ben, il y a le financement qui parfois est là. Des fois, c'est le recrutement. C'est le temps que ça va prendre pour faire une intervention. C'est qu'est-ce que je vais choisir comme outil de mesure. Lequel qui est adéquat, lequel qui n'est pas adéquat. Tu sais, c'est un champ de choix déchirant.
Écoute, mon projet, c'est sur les commotions cérébrales. Ça fait quasiment 2 ans qu'on n'a pas le droit de se toucher à moins de 2 mètres. Fait que des collisions, le sport. Même, on avait le curfew,
le couvre-feu.
Ce qui fait que les gens étaient moins sur la route.
Donc, il y en avait moins.
Moi, ma population d'intérêt,
c'est des gens blessés.
Ben, je suis à réfléchir, est-ce que ça va être le bon, est-ce que ça va être la bonne population à faire avec ce montant-là que j'ai, tu sais, parce que je veux l'optimiser, puis je veux être sûre d'être capable de recruter quand même aisément pour faire rouler, puis tu sais, plus on a de participants, plus après ça, c'est intéressant. Fait que on est tout le temps en train de se re-questionner, tu sais, est-ce que j'ai choisi le bon chemin, est-ce que je devrais le réajuster, c'est...
Puis même quand on fait un choix...
C'est jamais le meilleur!
Tu dis toujours à un moment donné, là, oh!
On vit avec, mais on se réveille des fois en se disant « Ah, j'aurais dû faire ça! »
Ouais, puis même à la fin, il y a plein d'affaires. Je suis à la fin du processus, puis à la fin, je me dis « Ah, oh, j'aurais tellement dû pas faire ça! »
Ouais.
Donc,
Bien, en tout cas, moi, mon souhait, si j'ai à en faire un, c'est qu'on crée une communauté en recherche, en ostéopathie, parce qu'on se connaît peu. Puis, tu sais, moi, je le vois, je vais avoir eu des super commentaires en physiologie, en cardiologie, en médecine du sport, en physiologie vasculaire cérébrale, mais j'ai pas de mentor en ostéopathie. T'sais, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui connaît ce qu'on fait, puis qui est aussi en recherche, puis qui nous conseille, connaissant le milieu de la recherche. Tu sais, des moments de... Là, on est no-brainer, mais ça prendrait des brainstormers en ça. Recherche.
Prochain projet.
Ça serait mon souhait, c'est que si jamais vous voulez ajouter ça dans votre... dans vos options, là, des moments de brainstorm en tant qu'entre chercheurs en ostéopathie, je pense qu'on a besoin de ça parce qu'on est plus qu'un imposteur, parce qu'on est vraiment tout seul dans notre domaine.
On est vraiment tout seul, oui. Dans chacun des labos, il y en a un tout petit qui arrive, salut.
C'est ça. Moi, je me faisais appeler la fille de la médecine alternative. Oui, mais je pense que ce qui nous guide, c'est la passion. Fait que... voilà.
Ben, merci beaucoup, Audrey, de t'avoir prêté au jeu du no-brainer. On espère que ton expérience, ça a été super positif.
Très bien.
Puis, je suis assurée que ce que tu nous as partagé aujourd'hui, là, ça va être vraiment bénéfique pour la communauté qui va nous écouter.